9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
AVS à votre santé. Bonjour, bienvenue, bon début de semaine à tous. J'accueille aujourd'hui Linda Benjaffer. Bonjour Linda.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, conseillère d'orientation et je vous coupe et je vous passe dessus. Ça va mieux votre grippe?
Ça va beaucoup mieux, merci. Bon.
Je vous attendais, je me suis dit, hein. Vous êtes plus contagieuse.
Non, du tout, ça y est.
Là, on a Kim en face, lui, il a une grippe qui est terrible, c'est la grippe algérienne.
Ouais, et la grippe de Blida, précisément. Ouais, Benimered.
Trois semaines l'année dernière à m'en sortir.
C'est vrai, on était malade en stéréo, en fait.
En stéréo, ouais.
Voilà, c'est. On est déjà.
Voilà, exactement, l'important c'est d'en sortir, Linda.
Exactement.
Madame a une douce voix, machallah, et j'ai mis le micro au taquet.
Au maximum, j'essaie.
J'y arrive, j'ai baissé la tienne, j'ai monté le truc pour essayer d'équilibrer.
Je n'ai pas une voix qui porte, c'est vrai.
Ouais, non, mais vous êtes maman?
Oui, absolument.
Je suis sûr c'est une maman tendre. Je sais pas pourquoi, mais. Comme moi avec ma fille. Bon voilà, excuse-moi d'avoir interrompu ton émission.
Non, c'est un bon début d'émission.
Je vous laisse repartir dans le sérieux.
Dans le très sérieux, tiens, on va parler des enfants justement, Kim, ce matin, puisque nous allons parler du TDAH. Et quand on parle du TDAH, Linda, on parle de quoi?
On parle d'abord d'hyperactivité, et c'est une erreur, parce qu'en fait, cette hyperactivité-là, en temps normal, elle est d'abord associée à un trouble de déficit de l'attention. Et ça, c'est très important, parce que on va nommer les enfants qui vont bouger dans tous les sens comme étant hyperactifs. Et au terme médicalement parlant, l'hyperactivité est d'abord associée à un trouble de déficit de l'attention. Ça veut dire que tous les enfants qui bougent dans tous les sens et qui parfois nous agacent parce qu'on n'en peut plus, et ça c'est vraiment le cas de le dire, ne sont pas pour autant hyperactifs médicalement parlant en fait.
Alors, si on prend un trouble de l'activité, donc c'est hyperactivité, ça se manifeste comment chez un enfant?
L'hyperactivité, c'est quand on a vraiment de la bougeotte, quand je ne peux pas, absolument pas, me retenir. Donc on a un trouble de l'inhibition, je vais dans tous les sens et j'ai besoin vraiment d'être dans l'hyperactivité toute la journée. Et c'est vraiment, c'est important. Donc il y a parfois des enfants qui viennent nous voir au cabinet et qui ne bougent pas pendant toute l'heure de la consultation, mais par contre à l'extérieur ils sont quand même dits hyperactifs parce qu'ils bougent. Donc il faut vraiment faire la distinction entre un enfant qui effectivement peut rester pendant plus d'une demi-heure voire une heure, ce qui est mauvais bien entendu, mais devant l'écran, donc il n'est pas hyperactif en soi puisque il a cette capacité effectivement à s'inhiber, alors que l'enfant est hyperactif devant l'écran, va bouger dans tous les sens, va se retourner la tête à l'envers, etc. Donc c'est important déjà de bien définir les choses. Il n'est pas hyperactif celui qui bouge tout le temps, en fait. Ça c'est important de le comprendre.
Enfants, par exemple, qui ont tendance à oublier ou à perdre leurs affaires souvent.
Totalement, ils vont être vraiment dans la perte d'affaires non-stop parce que justement ils sont distractibles et donc ils ont ce problème d'inattention et ils ont un problème pour se concentrer. Donc oui, on le voit à travers le fait qu'ils perdent leurs affaires, mais aussi le fait qu'ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout de l'écoute d'une consigne ou ne pas lire aussi une consigne jusqu'au bout. C'est compliqué pour eux parce que c'est vraiment le trouble de l'attention qui prédomine sur l'hyperactivité. Donc on peut avoir un TDAHA, donc comme un TDA, un trouble de déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Donc, il faut faire très attention, notamment les enfants qui, jusqu'à 5 ans, on ne peut pas définir ce trouble-là, parce que jusqu'à 5 ans, tous les enfants sont amenés à courir dans tous les sens. Donc, ça ne va pas dire qu'il est hyperactif parce qu'il bouge dans tous les sens. C'est très important.
Ça, c'est son métier d'enfant. Donc, TDHA, ça veut dire trouble
de déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. C'est-à-dire, on le rajoute le H ou pas, en fonction des troubles qu'on peut... Donc c'est un trouble neurodéveloppemental qui est multifactoriel, donc à l'origine. Donc c'est un déséquilibre dans certains neurotransmetteurs, c'est-à-dire que c'est vraiment neurochimique et c'est héréditaire, déjà, à la base. C'est important de le comprendre.
C'est-à-dire qu'en fait, dans la même famille, au sein de la même famille, il y a souvent plusieurs enfants qui présentent ce même trouble.
Plusieurs enfants, voire les parents également. Les parents également. Ça se transforme, on en reparlera peut-être tout à l'heure, comment ça se transforme à l'âge adulte, hein, puisque 65% des hyperactifs continuent à l'être à l'âge adulte. Donc ça se transforme totalement différemment.
Vous avez dit qu'on en parlait tout à l'heure et vous en parlez maintenant.
Notamment,
comment voulez-vous que je m'en sorte, okay, Linda?
On en parle alors. Donc ça se transforme par de la désorganisation totale, par de la procrastination aussi. Donc parents qui procrastinent, ce sont aussi beaucoup des parents qui étaient TDAHA ou qui le sont toujours d'ailleurs, mais qui n'ont pas été, qui s'ignorent en fait, qui n'ont pas été détectés. Et donc ça se transforme totalement différemment au niveau de l'organisation du travail, la planification, des parents qui vont être en retard dans les rendez-vous importants et qui ont vraiment du mal à planifier les choses. On est vraiment dans un trouble de la planification. Ce sont ce qu'on appelle les fonctions exécutives qui sont touchées, donc la planification. Et donc ça se ressent réellement. Donc on n'a plus la bougeotte réellement physiquement en tant qu'adulte, mais c'est la désorganisation au niveau intellectuel, au niveau du travail, au au niveau de, du quotidien.
Alors ces enfants là dont on parle aujourd'hui, qui sont très attachants, ils présentent souvent et ils posent des questions à leurs parents et aux enseignants parce qu'ils les mettent en difficulté. On ne sait pas toujours comment les prendre. Les parents vous disent qu'ils sont épuisés. Les enseignants disent et souvent et convoquent les parents pour leur dire, voilà, votre enfant ne tient pas en place en classe. Et c'est souvent à cette occasion que les parents sont amenés à se poser des questions.
C'est vraiment un gros souci, puisque la première des plaintes, effectivement, au niveau scolaire, c'est la plainte au niveau du comportement. Et c'est ce qui nous ramène au cabinet, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas, il a des compétences, que ce sont des enfants très, très, très créatifs, très intelligents, qui ont vraiment une intelligence débordante très souvent, mais qui, justement, n'arrivent pas à organiser cette intelligence, qui fait que, qu'est-ce qui va être de prime abord ? C'est le problème du comportement. Et donc, il a des capacités, mais son comportement fait qu'il ne les exploite pas, il est facilement distrait, il agit avant de réfléchir, il bouge trop et il ne peut pas s'en empêcher, etc., etc. Et tout le temps ces plaintes-là, et le gros problème c'est que, pardon, on va mettre en avant le comportement, ce qui va faire complètement la mise aux oubliettes de ses vraies compétences et de ses vraies capacités, qu'on ne pourra plus du tout mettre en avant, parce que justement ce comportement va prendre toute la place, que ce soit à l'école ou à la maison. Et donc ce serait un peu la double sanction. Et c'est vraiment ce qui est très dommage, c'est qu'on arrive à plus du tout voir ce qu'il est capable de faire, à pointer du tout à ce qu'il ne sait pas faire, autant à l'école et à la maison on reprend. Oui, mais à l'école, on t'a dit ça, parce que c'est vrai que les mamans qui arrivent désespérées parce qu'elles ne veulent même plus aller chercher leur enfant à l'école. Pourquoi ? Ben parce qu'il y a tout le temps des plaintes tous les soirs. Ah oui, j'ai encore à vous dire, voilà ce qu'il a fait aujourd'hui, etc. Et c'est douloureux, mais les mamans en pleurent le soir, ou délèguent pour aller faire chercher leurs enfants, parce qu'ils sont tellement stigmatisés et elles savent pertinemment qu'il va se passer telle ou telle chose, ou on va décrire telle ou telle chose négative, tel ou tel comportement, en oubliant totalement la créativité et la sincérité de ces enfants-là. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces enfants-là, c'est pas qu'ils ne veulent pas aller mieux, c'est qu'ils ne peuvent pas. Et ça, c'est très important déjà, en tant que parent, de changer de regard, à mon sens, sur son enfant.
C'est-à-dire que les enfants ne le font pas exprès.
Absolument pas.
Ils n'ont pas de possibilité de faire autrement.
Mais oui, c'est un trouble neurochimique, donc c'est vraiment dans l'hérédité, c'est dans ses gènes. Il a du mal, bien entendu. Ensuite, il faut développer toute une panel, effectivement, de remédiation face à ça, et on en parlera. Mais l'important, c'est déjà, avant toute chose à la base, en tant que parent, de changer de regard, en fait. De changer de regard sur son enfant et se dire, et quand bien même il m'épuise, et je comprends totalement, et je compatis, je suis maman. Mais réellement, qu'ils sont plus qu'épuisant, mais déjà se dire qu'il ne le fait pas exprès, cet enfant-là. Et que peut-être qu'en moi, effectivement, en miroir, je vais déjà essayer de m'apaiser et ne pas lui hurler dessus comme on peut lui hurler dessus à l'école, ça sera déjà quelque chose de très positif.
Ils ne sont pas maîtres de leur comportement.
Absolument pas. Donc c'est à nous, effectivement, de leur faire mettre en place des stratégies de compensation pour compenser ce déficit d'inhibition, ce déficit au niveau de l'attention, de l'hyperactivité, de l'impulsivité. Parce que l'impulsivité, c'est ce qu'on appelle déficit de l'inhibition. Je ne peux pas m'inhiber. Donc c'est encore un problème de fonction exécutive dans le cerveau, qui fait que je ne n'arrive pas à m'arrêter, donc je dois absolument parler, et c'est beaucoup plus fort qu'eux. Et le problème, c'est que ces enfants-là, à partir du moment où ils sont dans cette activité-là, ils ne se rendent pas compte combien ils peuvent agacer les et ils s'en rendent compte trop tard, en fait, quand ils agacent les adultes, que ce soit les, et après ils tombent des nues, ils comprennent pas, mais pourquoi est-ce que vous me punissez, mais en fait j'ai rien fait, parce qu'ils ont un décalage entre ce qu'ils font et la réaction.
Mais est-ce que la punition dont vous parlez, ça fonctionne? Un enfant hyperactif.
Mais absolument pas, en fait. Absolument pas. Parce que quand on dit à un enfant, mais va dans ta chambre et va réfléchir sur ce que tu as fait, et, comme bêtise, mais en même temps, je ne sais même pas moi ce que j'ai fait, je ne sais même pas pourquoi je l'ai fait. Donc l'important, c'est mettre en place des choses pour pouvoir ne pas arriver au comportement inapproprié, plutôt que de sanctionner quelque chose qui n'est pas du tout de mon ressort, en fait. C'est ça qui est important.
Ça sert à rien, ni de les punir, ni de leur faire la morale. Ils comprennent pas, en fait.
Ils comprennent, mais en même temps, ils ne peuvent pas faire autrement. Je comprends bien, effectivement, que j'agace tout le monde, je le vois bien. Mais le problème, c'est qu'après, ça va générer un sentiment d'autodépréciation, ça va toucher l'estime de soi. Et alors qu'à la base, la base de la réussite, et je le dis toujours, c'est l'estime de soi. Et donc, ils vont être tellement, tellement stigmatisés, tellement étiquetés, que ce soit à l'école, à la maison, partout, dans tous leurs lieux de vie, d'ailleurs, qu'effectivement, ils vont se sentir totalement dépréciés, ils vont se sentir totalement rejetés. Et c'est le gros problème, parce que parfois, ces enfants-là vont aller jusqu'à l'échec scolaire, réellement. J'ai travaillé pendant des années dans la cellule des décrocheurs scolaires, et ce qui arrivait en premier lieu, c'est la stigmatisation due au comportement inadapté, en fait. Et donc, il faut qu'on comprenne, et par la grâce de Dieu, depuis quelques années maintenant, on va dire à peu près 5 ans, et depuis, c'est reconnu comme un déficit cognitif à l'éducation nationale, par la Haute Autorité de Santé, et maintenant, alhamdoulilah, comme on dit, c'est vraiment, on arrive à mettre en place certaines choses au niveau scolaire. Et tant mieux, parce que maintenant, ils sont étiquetés non pas comme étant ayant des troubles de comportement, mais comme étant vraiment TDAH. Et donc, du coup, ils ont une AVS, ils ont vraiment des prédispositions pédagogiques pour pouvoir les aider au mieux. Ils ont un ordinateur parce qu'ils n'arrivent pas du tout à aller jusqu'au bout de la consigne, ils n'arrivent pas au niveau graphomoteur à écrire. Ils ont tellement de mal à se positionner qu'on les reconnaît, Dieu merci, et on peut remédier par plusieurs prédispositions pédagogiques.
Alors, quelle différence on fait entre un enfant qui, qu'on appelle hyperactif et un enfant qui souffre de troubles de déficit de l'attention avec hyperactivité? Est-ce que c'est la même chose ou c'est différent?
Alors, l'hyperactivité, ce qu'on appelle médicalement parlant, vient du trouble, c'est un syndrome en fait.
Donc les deux vont toujours ensemble.
Vont toujours ensemble, sauf que nous pouvons avoir un TDA, un trouble de déficit de l'attention, attentionnel, un enfant qui ne peut pas aller jusqu'au bout d'une consigne écrite ou orale, par exemple, mais qui n'est pas du tout, donc il ne bouge absolument pas, en fait.
Donc tous les hyperactifs souffrent d'un déficit de l'attention, et les enfants qui souffrent d'un déficit de l'attention ne sont pas forcément hyperactifs.
Au niveau physiologique, voilà, exactement.
C'est ça qu'il faut comprendre. Dans la prise en charge de l'enfant, est-ce qu'elle change la prise en charge?
La prise en charge est la même, en fait. C'est-à-dire que dans...
Pour les deux troubles.
Oui, c'est-à-dire que la première des choses qui va être mise en avant, c'est essayer de donner ce qu'on appelle des ateliers d'habilité parentale. C'est-à-dire essayer de faire comprendre aux parents comment donner un ordre à l'enfant, comment lui expliquer certaines choses. Par exemple, un parent, si je dis à mon enfant quand il rentre de l'école, je lui dis, écoute, tu vas enlève tes chaussures, lave-toi les mains et on va passer à table, c'est juste impossible, en fait. C'est-à-dire que c'est trois consignes.
Oh, la mère terrible.
Et donc, ils ne peuvent
c'est
pas...
C'est la Thénardier, ça. Enlève tes chaussures, lave-toi les mains, on va à table.
Non, mais ça, c'est du quotidien de toutes les mamans, mon cher Philippe. C'est vraiment notre quotidien. Et du coup, c'est va te laver les mains, ou frotte-toi les dents, ou mets ton pyjama. Et on ne comprend pas, enfin, on a du mal à cerner que l'enfant ne va pas aller jusqu'au bout de ma consigne. Donc, je dis une consigne, je m'arrête, je prends le temps. Déjà, il va falloir être aussi posé nous-mêmes en tant que parents, parce que sinon...
Oui, parce que si vous parlez aussi vite que à vos enfants, à mon avis, ils ne comprennent pas. Hein.
D'accord, là, on va parler plus doucement. Et donc, du coup, ce qui est important de savoir, c'est que je vais donner une consigne, je vais m'arrêter, je vais être sûr qu'il va aller jusqu'au bout de la consigne avant d'en lancer une deuxième, parce que c'est juste impossible pour lui de digérer, on va dire, deux, trois choses en même temps. Donc ça, c'est aussi comment faire avec l'enfant, c'est ça les habiletés parentales au quotidien pour pouvoir être le plus approprié, c'est le regarder dans les yeux, c'est le faire reformuler, lui dire, est-ce que tu as compris ce que je viens de te dire? Est-ce que tu peux me reformuler ce que tu entends? C'est important parce que parfois, ils vont squeezer, ils vont faire la moitié de ce qu'on a dit, voire pas du tout, et nous, on va être hors de nous en tant que parents, n'est-ce pas? Ou en tant qu'enseignants aussi.
Ils me provoquent.
Exactement. Ouais. Et donc, du coup, ça peut aller jusqu'au trouble de ce qu'on appelle les fameux TOP, hein, des troubles oppositionnels de la provocation. C'est-à-dire que ça peut être aussi un trouble associé, une comorbidité, c'est-à-dire associé à l'hyperactivité. C'est pas toujours le cas, mais on se sent tellement pas compris en tant qu'enfant hyperactif qui bouge dans tous les sens, tout le temps stigmatisé, qu'on va développer un trouble de la conduite, en fait. Ce n'est pas parce qu'on est hyperactif qu'on a un trouble de la conduite, mais on peut totalement le développer à force d'être stigmatisé, de ne pas être compris. Je vais développer un trouble inapproprié, un comportement inapproprié, qu'on appelle le trouble oppositionnel. Et là, je vais être dans l'opposition parce que je ne suis pas compris. Et le but, c'est ça. Et puis, ça va plus loin, c'est-à-dire que ces enfants-là peuvent aussi être en décalage entre ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent. C'est-à-dire que la pensée va tellement vite au niveau du cerveau que parfois, ce qu'ils disent va venir buter c'est-à-dire que ça ne va pas assez vite, la parole ne va pas assez vite à rapport à la pensée. Et du coup, c'est totalement inaudible. Et donc, ils ne sont pas compris. Et il y a la pire des choses en ce bas monde, c'est de ne pas être compris. Et du coup, je vais être dans la rage, vraiment dans l'opposition, parce que je ne vais pas être compris. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps en tant que parent de se poser, de dire en fait, qu'est-ce que tu es en train de me dire là quand tu me dis ça? C'est pas facile, surtout quand on a plusieurs enfants. Mais c'est ça les habiletés parentales. C'est vraiment se dire que changer de regard sur mon enfant est différent. Comment est-ce que je peux faire avec lui? Il ne le fait pas exprès. C'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Comment est-ce que moi je peux m'adapter? C'est à moi, adulte, de m'adapter à mon enfant, c'est pas à lui de s'adapter à mes règles, surtout quand elles sont incompréhensibles par lui.
Alors, vous avez compris, ce matin, nous parlons des troubles déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité avec Linda Benjaffer. Peut-être que vous êtes parent, que vous avez un enfant que vous reconnaissez dans ce que vient de dire Linda. Vous nous appelez, posez vos questions au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Alors AVS, c'est trois lettres, on parle d'un trouble, il y en a quatre, hein, c'est le TDAH pour déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité.
Oui.
Linda Bedjaffer est mon invitée ce matin, elle est psychologue conseillère d'orientation et c'est la conseillère psychologue qui parle le plus vite de France. Voilà. Donc Kim, si tu peux appuyer sur le bouton et régler le débit de voix de Linda, parce qu'elle va trop vite pour moi, ma pensée n'arrive pas à suivre. C'est Laura qui nous appelle d'Arpajon, Linda. Laura, bienvenue sur Beurre FM.
Oui, bonjour. Je vous appelle parce que justement, bonjour, moi aussi, j'ai mon fils qui a des problèmes à l'école. C'est qu'à un moment, il va travailler et après, bah, il va bouger partout. Il va bouger partout et donc la maîtresse, justement, bah, dit qu'elle ne peut pas le canaliser. Quoi.
D'accord. Quel âge a-t-il ?
Il va avoir 5 ans.
D'accord. Ok.
Alors, est-ce que 5 ans, justement, c'est l'âge auquel on peut commencer à détecter le trouble ou c'est trop tôt ?
On va dire plutôt 6 ans. Parce que plutôt les enfants 6 qui bougent entre 0 et 5 ans, ouais, ça ne prédispose pas d'une hyperactivité réelle, médicalement parlant. Donc, oui, il bouge dans tous les sens. Il a du mal avec cette enseignante. Maintenant, le gros problème aussi de l'éducation nationale, il faut le dire, c'est que la majorité des enseignants ne sont pas formés au TDAH. Donc, on va les stigmatiser, malheureusement, alors qu'il y aura beaucoup de prédispositions à avoir, la remédiation à mettre en place. Notamment, on sait que cet enfant bouge beaucoup, donc en plus à 5 ans, c'est juste naturel en fait, c'est juste naturel. On va dire qu'il est plein de vie plutôt qu'autre chose, et donc ce qu'il va falloir faire, c'est en tant qu'enseignant peut-être, c'est le laisser le faire bouger, l'envoyer faire des photocopies, enfin faire certaines choses pour qu'il puisse réellement pouvoir bouger et ne pas être stigmatisé, mais c'est pas du tout évident.
Alors il est comment à la maison, Laura, votre petit garçon ?
Bah, il est pareil, en fait, il va regarder la télé pendant, on va dire, 10-20 minutes, mais après il est obligé de bouger, en fait.
D'accord, et ça c'est difficile pour vous à accepter ?
Non, bah moi je le laisse parce qu'il est plein de vie et tout ça, je vais pas non plus l'attacher à la chaise.
Oui.
Mais c'est que le problème, c'est que là la maîtresse, bah tous les soirs quand moi je vais les chercher, disent oui, bah il a pas été sage parce qu'il arrêtait pas de bouger et puis tellement qu'il bouge, bah les autres camarades ils vont dire oui, bah lui il bouge, donc nous on va faire la même chose. Donc après elle me dit qu'elle n'arrive pas à tenir sa classe parce que lui il bouge, donc tous les autres sont obligés de le faire.
Je comprends, mais le gros problème en France ici, c'est que on se rend pas compte que jusqu'à 7 ans, l'enfant n'est pas fait pour pouvoir rester immobile, en fait. Et donc on demande à un enfant de 5 ans, c'est vraiment juste terrible, pour avoir travaillé l'éducation nationale, je peux vraiment en témoigner, jusqu'à l'âge de 6 ans, il doit absolument tenir pendant 8 heures assis, c'est juste une impossibilité. Alors que dans tous les systèmes éducatifs à travers le monde, ça se passe pas comme ça, un enfant ne bouge pas jusqu'à l'âge de 7 ans. Et donc ce qui est important de comprendre, c'est déjà de lui expliquer à cette maîtresse, de pouvoir vraiment essayer de comprendre un peu ce que c'est que le TDAH, parce que ce que vous me dites là, plus de 10 minutes devant l'écran, ben oui, peut-être qu'effectivement c'est compliqué pour lui, et peut-être qu'il a une hyperactivité cet enfant-là, donc peut-être commencer dès maintenant à voir un spécialiste, même si c'est un petit peu tôt, pour pouvoir émettre un diagnostic qui va pouvoir rassurer cette maîtresse aussi, parce que tant qu'il n'y a pas de diagnostic, vous savez, les enseignants, tant qu'on ne leur dit pas effectivement, voilà, médicalement parlant, ou un professionnel l'a détecté tel quel, eh ben il continuera à être stigmatisé. Et là, si c'est juste plus possible pour elle, allez voir un spécialiste dans votre région du TDAH juste pour qu'on puisse poser ou pas le pré-diagnostic, on va dire, et pour pouvoir faire en sorte qu'on ne stigmatise pas autrement que l'agitateur, la provocateur, etc., autrement que ce qu'il est réellement probablement avec un TDAH, vous voyez. Donc c'est important de mettre des étiquettes, malheureusement, mais au moins mettre la bonne étiquette.
Mais de toute façon, parce qu'elle veut faire venir le médecin les médecins de l'école, quoi.
Scolaire, le médecin scolaire, oui, bien sûr, ou même voir peut-être déjà la psychologue scolaire qui peut aussi rentrer dans la classe le voir, puisque le médecin scolaire ne se déplacera même pas.
Mais un enfant de 5 ans, même s'il a 5 ans, qui bouge quand même beaucoup plus que ses camarades,
oui,
est-ce que c'est une indication ou pas du tout ?
Ça peut être une indication à l'âge de 5 ans, effectivement, une indication, mais ce n'est absolument pas sûr. C'est-à-dire
c'est pas
que
sûr, voilà,
à partir du moment où l'âge de raison va s'installer, c'est-à-dire où le cerveau sera mûr pour pour les facultés cognitives d'apprentissage, et ça ne sera pas avant 7 ans, c'est vraiment 7 ans, et ça on ne le prend pas en compte à l'éducation nationale en France, malheureusement encore aujourd'hui, et, tant que, oui, il bouge dans tous les sens, et ça peut très bien, il peut très bien se calmer complètement à l'âge de 7 ans, en fait. Donc, ça présage sans présager réellement, en fait, on ne peut pas
c'est
savoir.
C'est trop tôt.
Il est juste plein de vie. Mais c'est vrai que s'il y a un avis de professionnel, peut-être qu'elle comprendra davantage quoi faire, cette maîtresse.
Mais le problème, c'est que après, moi je fais rien parce que il bouge, mais quand, par exemple, elle va lire une histoire ou elle va parler,
c'est
même malgré qu'il va bouger, il va écouter, même après, si on l'interroge, il va répéter tout ce qu'elle a, dit la maîtresse.
D'accord. Donc là, visiblement, il n'a pas de trouble de l'attention, parce que quelqu'un qui a un trouble de l'attention ne peut pas aller jusqu'au bout de l'histoire. C'est très compliqué pour lui de rester. Donc, il va bouger parce qu'il est inattentif et distractible. Donc, ça n'a pas l'air d'être le cas de votre enfant. Donc, effectivement, c'est juste, visiblement, il bouge parce qu'il est plein de vie. C'est ça, en fait. Mais encore, à être accepté à l'éducation nationale aujourd'hui d'être plein de vie, à l'âge de 5 ans, c'est très compliqué.
Voilà, Laura.
Merci
beaucoup pour votre appel.
Merci.
Alors, nous allons accueillir Lilia, qui est avec nous au 01 53 48 3000. Lilia, bonjour et bienvenue sur BFM.
Oui, bonjour, merci. Alors, moi, j'appelle pour ma fille qui a 6 ans, qui a fait ses 6 ans, en fait, en mois de septembre. Et je demandais juste par rapport à son régime alimentaire, parce qu'elle est allergique au gluten. Donc, je me suis dit que peut-être c'est à cause de ça qu'elle est très peu attentive, que ce soit à la maison ou à l'école. Donc, est-ce que ça peut quand même jouer sur ça, s'il vous plaît ?
Totalement. Totalement, vraiment, c'est...
Ah bon ?
Oui, je vous remercie beaucoup, effectivement, de le mettre en avant et de le dire, et de le penser, parce qu'effectivement, il y a une incidence réelle entre l'alimentaire et les facultés cognitives, les facultés d'être dans l'inhibition ou pas, d'être impulsif ou pas, de facultés de compréhension et d'apprentissage.
Exactement.
Ça a un réel effet. Donc, est-ce qu'elle est en régime ? Qu'est-ce qui se passe ?
Mais attendez, est-ce qu'elle...
Elle a été détectée, en fait, en tant que...
En avril 2016, elle avait peine 2 ans et demi.
Ah oui.
Et oui. Et elle est sous régime sans gluten, complètement sans gluten. Là, je suis, moi, les consignes, en fait, des médecins.
D'accord.
Ils me demandent de temps en temps d'intégrer le gluten petit à petit dans son alimentation.
Mm-hmm.
Donc, je remarque pas forcément de changement dans son comportement par rapport au régime, parce que c'était parce qu'elle mange que de toute petite quantité, en fait, de gluten.
Mm-hmm.
Mais sinon, tout le temps, elle est sans gluten.
Et vous avez vu la différence depuis ce régime, au niveau de l'agitation?
Non, elle a commencé, en fait, son régime très, très tôt, en fait. Mm-hmm. Elle avait 2 ans et demi, donc...
Ouais. Et elle continue à être hors norme au niveau de...
Oui. Et pourtant, elle est très, très intelligente, donc elle comprend très vite. Oui. Mais elle n'est pas du tout attentive.
Alors, au-delà du fait, effectivement, et continuer ce régime, vraiment, parce que le gluten, c'est ce qui est le plus acidifiant et vraiment qui cause d'énormes problèmes au niveau de l'attention, de la concentration, certes. Donc, continuer cela, mais à côté de ça, peut-être que maintenant qu'elle a 6 ans, lui faire ce qu'on appelle, par un neuropsychologue, des tests d'attention, des tests attentionnels, mais aussi peut-être des tests cognitifs, tout simplement, le test de QI, pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un trouble de l'attention associé, effectivement, au fait que ça vient du gluten ou pas ? Est-ce qu'il y a une réelle hyperactivité ? Est-ce qu'il y a une impulsivité intellectuelle aussi ?
Oui, parce qu'elle bouge énormément. Elle peut pas tenir comme ça, tranquille, sans rien faire. Enfin, même jouer aux poupées ou quelque chose comme ça, non, elle peut pas. Le peu de temps qu'elle reste très, très calme, c'est devant les écrans.
Ah, oui.
Si elle reste 3, 4, 5 heures devant les écrans, elle ne bouge absolument pas.
4, 5 heures, vous dites ?
Oui, non, je dis ça comme ça, mais je ne la laisse pas comme ça.
Attention.
Mais si elle reste... Oui, non,
jusqu'à
je dis ça
6 ans,
comme ça.
Si je peux me permettre, au niveau des écrans, ça devrait être totalement interdit, jusqu'à 6 ans. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, nous a dit jusqu'à 3 ans, mais je peux vous assurer que c'est jusqu'à 6 ans, parce que c'est très délétère pour le neurodéveloppemental, pour le développement du cerveau. Et donc, donc ça veut dire aussi que peut-être... Ce qui serait bien aussi, c'est de faire un bilan psychomoteur, pour savoir au niveau psychomoteur comment est-ce qu'elle habite son corps. Est-ce qu'il n'y a pas des troubles associés ? Est-ce qu'il n'y a pas une trouble de déficit de l'attention, vraiment, des problèmes attentionnels ? Mais est-ce qu'au niveau de son corps aussi, parfois, certains enfants n'habitent pas leur corps, ce qu'on appelle aussi la dyspraxie,
où
on a du mal.
Ah, c'est ça, c'est la dyspraxie, c'est quand on est un peu désordonné.
Exactement, et donc
pas
du
coordonné.
Coup, on va dans tout, exactement, la coordination motrice manque, et du coup, on a du mal vraiment à habiter son corps. Et ça, il y a toute une remédiation par cette prise en charge-là, qui peut faire qu'elle peut beaucoup beaucoup se calmer, surtout qu'aujourd'hui les psychomotriciens et siennes arrivent à faire aussi beaucoup de relaxation, parce que ces enfants ont besoin de relaxation. Alors ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de faire de la méditation de pleine conscience avec votre enfant, c'est-à-dire arriver à ce que, lorsqu'elle est dans tous ses états, pouvoir se déconnecter à travers des petits exercices de relaxation qu'on peut trouver par exemple dans un des livres, mais il y en a pléthore, calme et attentif comme une grenouille par exemple, avec un CD qui fait que dans la journée, effectivement, vous lui mettez ce CD
calme et attentif
comme une grenouille,
comme une grenouille,
mais pour ne pas le citer,
je retiens vite moi,
voilà, avec un CD. Et c'est vrai que plusieurs fois comme ça, dès que vous sentez qu'elle est, qu'elle n'arrive pas du tout à maîtriser son corps et qu'elle est dans l'effervescence et que ça va lui causer autant de tort qu'à vous, automatiquement là vous allez mettre cette petite CD là, ça dure 3-4 minutes et et on fait tomber la tension et ça fait beaucoup de bien.
D'accord.
Bon, allez, avec la grenouille, Lilia.
Ouais. Bon courage à vous, en tous les cas.
Merci beaucoup.
On vous fait un gros bisou, Lilia.
Et bonne journée. Merci
à vous de même. Salam alaikum.
Au revoir.
À bientôt. Alors, Linda est avec nous. Linda est à Fresnes. Linda, bienvenue sur Beurre FM.
Oui, bonjour.
Bonjour, Linda.
Désolée, c'est la première fois que j'appelle la radio, donc je suis un peu...
Soyez la bienvenue. Voilà.
Merci. Donc oui, moi j'ai appelé pour expliquer le cas de mon fils qui a bientôt 10 ans.
Oui.
Et donc j'arrive pas trop à cerner son état, s'il est en hyperactivité ou pas, parce que par moments il est très adorable, il bouge pas beaucoup, il est calme, il joue ou bien il fait ses devoirs, mais quelquefois il bouge beaucoup, il est hyperactif, il va peut-être chercher sa sœur qui a 5 ans. Donc voilà, donc à l'école, il travaille bien, mais il manque de concentration. Il manque vraiment de concentration.
D'accord.
Il peut se tromper sur des choses qui sont évidentes et qu'il connaît, en fait. Mais à mon avis, il n'arrive pas trop à être... il n'arrive pas à être concentré longtemps avec sa maîtresse.
Donc, et vous n'avez vu aucun spécialiste pour l'instant pour poser un diagnostic ?
Non.
D'accord.
Non.
Donc l'idéal, ce serait déjà...
Après, je me pose la question, en fait, donc voilà.
Donc je pense que déjà l'idéal, là vous me parlez plus effectivement dans ce que vous décrivez, il y a plus de symptômes de TDA, de troubles de déficit de l'attention, que d'hyperactivité. Je pense qu'à partir du moment où il devient distractible, où il a du mal à fixer son attention, c'est ce qui va créer le comportement inapproprié, en fait, qui va faire qu'il va jouer et bouger dans tous les sens. Donc déjà ce qui est important peut-être, c'est déjà de repérer et de répertorier le facteur déclenchant de cette hyperactivité. Qu'est-ce qui, il est dans une journée lambda, qu'est-ce qui fait qu'il était très calme, alors mis à part des écrans, hein, parce qu'effectivement c'est soporifique, on arrive à être complètement hypnotisé par les écrans, mais qu'est-ce qui fait que je passe d'un état effectivement où je vais bien, où tout va bien, à l'hyperactivité? Donc déjà pouvoir vraiment marquer cela, pouvoir le noter, facteur déclenchant. Ensuite, le facteur aggravant. Je crois que c'est vraiment important aussi d'avoir, mais qu'est-ce qui aggrave cette situation? C'est quand je lui crie dessus qu'il devient encore plus hyperactif, quand il est en bagarre avec sa petite sœur. Qu'est-ce qui fait que... Et c'est vraiment, au fil du temps, noter les choses, c'est très important pour comprendre qu'est-ce qui l'a fait entrer dans ce comportement inapproprié. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, vraiment voir un spécialiste du TDA, trouble de déficit de l'attention, ça peut passer par un neuropsychologue qui fait des tests attentionnels, juste pour comprendre effectivement qu'est-ce qui fait qu'il lâche. Est-ce qu'il a réellement un problème de concentration et voire de mémoire, peut-être, hein, c'est un problème de mémoire, d'encodage, ça dépend à quel niveau ça se passe au niveau du cerveau. Donc c'est important déjà de répertorier ça pour pouvoir mettre, là, encore une fois, la bonne éthique.
Mais est-ce que Linda, son maître vous a alerté à repérer quelque chose, vous en a parlé ou pas du tout?
Non, en fait, non, pas du tout. Hein. En fait, il parle que de... À un moment donné, il est très calme, très sage, il suit bien, et quelquefois, il bavarde. Son problème, c'est le bavardage à l'école.
Ben oui, donc il a pu juste être inattentif, distractible, et en 5 minutes, il a décroché, qu'en fait, il ne suit plus du tout le maître, donc il va se... ou la maîtresse, et du coup, il va se retourner vers ses camarades, parce qu'en fait, il ne suit plus le fil des choses. Et donc, là, ça me fait vraiment penser à un TDA, plus qu'autre chose. Maintenant, il faut vraiment mettre le diagnostic, il faut vraiment poser des mots. Parce que c'est toujours le problème, hein, dans la vie, c'est quand il n'y a pas le bon mot, et ben ça va être remplacé, la nature à horreur du vide, ça va être remplacé par le mot qui est inadapté souvent. Donc on va le traiter, je sais pas, d'hyperactif alors qu'il n'est pas, de provocateur,
ou de perturbateur,
ouais. Ou dans la lune, etc. Et ça peut le suivre toute sa vie, ça peut être très délétère pour sa projection et sa trajectoire de vie. Alors que voilà, c'est dès maintenant aller poser, donc aller voir un psychomotricien aussi pour savoir qu'est-ce qui fait qu'il bouge comme ça tout d'un coup, ce n'est pas toute la journée, mais c'est que de temps en temps, et aller voir ce fameux neuropsychologue qui va faire des tests vraiment attentionnels. C'est important de comprendre, parce que la remédiation fera suite juste après. Et donc, vous allez voir D'accord. qu'effectivement... Mais il faut déjà mettre le mot, je pense.
D'accord. Donc, j'ai déjà cherché à comprendre pourquoi il devient d'un coup comme ça, alors qu'il était, à un moment donné, il était sage.
Oui.
Donc, alors, ce que j'ai remarqué, bon, je sais qu'à l'école, il n'arrive tellement pas à être très concentré avec la maîtresse. Bon, il est concentré, mais à un moment donné, il va ne plus l'être et il va commencer à bavarder.
Oui.
Mais il passe une semaine sans qu'il ait une remarque de bavardage. Donc il est sage. À un D'accord. moment donné, ça va se déclencher.
C'est ça.
Donc voilà. Mais à la maison, en fait, malgré qu'on essaye de limiter les écrans et de mettre un contrôle parental pour, on va dire, limiter les heures de jeu sur les consoles, en fait. Et donc dès lors, il joue, il ne serait-ce qu'une heure. Mmh. Après, donc il est un peu excité.
Toujours, absolument, oui. La mise devant l'écran fait qu'effectivement, au niveau neuronal, on va être dans cette hyperactivité-là derrière. Donc, une heure, c'est peut-être beaucoup à l'âge de 10 ans. Vraiment, réduisez au maximum. Et surtout, renotez bien, s'il vous plaît, renotez bien quel est le facteur déclenchant. Je pense que c'est très important. Bon
Merci.
Courage, en tous les cas.
Linda, pour votre appel, vous avez peut-être un enfant qui souffre d'un trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Vous pouvez poser vos questions à Linda Benjaffer au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Je constate qu'il y a un axe qui est en train de se former entre Linda Benjaffer et Kim. Je pense que ce n'est pas une bonne combinaison.
Mais oui, en fait, il est en train de me parler de la dyspraxie de son enfant et donc je lui donnais des conseils, tout simplement.
C'est vrai ?
Mon cher Philippe, exactement.
Oh Linda, vous travaillez à l'antenne.
C'était pas de mon enfance, c'était de mon enfance, c'est celui-là, hein, c'est Sami Amara en fait. Voilà.
Laisse-les tranquille. Alors on parle justement des enfants qui ont des troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. On va prendre vos appels dans un instant. C'est un trouble. C'est quoi la différence entre un trouble et une maladie ?
Alors déjà, un trouble, c'est une maladie, mais c'est quoi la différence ? Plutôt, la bonne question, ce serait un trouble et une difficulté. Une difficulté, c'est ponctuel. Un trouble, qui est aussi un ensemble de syndromes, en fait, de symptômes, on va dire, qui perdure dans le temps, en fait. C'est la récurrence et le fait que ça perdure au-delà de 6 mois qu'on peut appeler à ça un trouble, en fait. Et qu'en règle générale, on aura toute sa vie. Et qu'il faut juste aménager pour avoir des stratégies de compensation pour compenser ce trouble. Alors que la difficulté, elle est ponctuelle et elle peut passer sans aucun problème, avec bien sûr une remédiation aussi.
Est-ce qu'un trouble est un handicap ?
Ça peut être un handicap, absolument, totalement un vrai handicap. D'ailleurs, on appelle ça le handicap cognitif, hein, le TDA, TDAH, reconnu mondialement comme depuis 2000, très peu de temps, 2013.
Alors, Linda, on accueille Asdine qui est avec nous au 01 53 48 3000. Bienvenue sur Beurre FM, Asdine.
Oui, bonjour.
Bonjour Asdine.
Bonjour. Oui, alors je vous appelle par rapport à mon fils Camille qui a 7 ans. Il est en CE1.
Oui.
Et moi, pour faire un petit topo de la situation, donc j'ai 3 enfants. J'ai un petit garçon de 7 mois et une petite fille de 4 ans et demi.
Oui, que voilà. Dieu vous les garde.
Et, comment ?
Que Dieu vous les garde, je disais.
Merci, c'est le mec, merci. Et ma question va rejoindre toutes les questions des auditeurs précédents. Il a beaucoup de problèmes à se concentrer, vous parliez d'handicap, ça l'handicap au niveau de sa scolarité.
C'est-à-dire
à l'école, il n'est pas très concentré, il a un peu la tête en l'air, il est dans les nuages.
Allez-y, continuez, pardon.
Et on a vraiment tout fait. Donc il est suivi au CMP par une psychologue. Donc,
il en
est à sa 5e séance. Bon, la psychologue elle peut pas trop faire au bout de 5 séances un diagnostic. Je pense qu'il faut plus de séances. Et voilà. Bon,
faudrait
au CMP
passer.
On lui a conseillé de faire un électroencéphalogramme pour voir s'il y avait quelque chose qui clochait par rapport. Donc il a fait un électroencéphalogramme. Tout va bien, il n'a rien de particulier.
Ben, ça ne m'étonne absolument pas. Un électroencéphalogramme à 7 ans.
Parce qu'on est inquiet un petit peu par rapport à son manque de concentration. Et là, ça perdure un petit peu sa handicap au niveau de sa scolarité. Mmh. C'est-à-dire que. Et là, il est en CE1. Ça non, a commencé déjà quand il était en troisième section. Troisième section, c'est quand il est en CP, mais là, ça dure un peu et on ne sait vraiment pas trop quoi faire. Quoi.
Et donc, votre question, c'est comment faire avec mon enfant qui a un problème d'attention, c'est ça?
Oui, voilà, alors, de concentration, surtout pour qu'il soit concentré.
Déjà, si je peux me permettre, il va falloir aussi peut-être sortir, enfin, peut-être pas sortir, mais aller voir quelqu'un d'autre que la psychologue au CMPP qui n'a pas les outils pour pouvoir faire un test attentionnel. Et au lieu de faire effectivement un électro qui est totalement normal, je comprends, on ne voit pas le trouble de l'attention au niveau de l'électroencéphalogramme. Donc, ce qui est important, c'est d'aller poser ce fameux diagnostic. Est-ce qu'il y a un réel TDAH ou pas? Un TDA, en tous les cas, trouble de déficit de l'attention. Est-ce que c'est un enfant qui bouge dans tous les sens ou pas? C'est important.
Non,
elle ne bouge pas.
Donc,
visiblement, c'est vraiment le TDA.
Ce qui est le handicap, c'est surtout la concentration.
Mais oui,
même
mais donc
au quotidien,
on peut
quand
remédier.
On lui parle, on lui demande d'aller faire ci, faire ça, il met une heure avant de
mais
faire
oui,
les
mais
choses.
On peut y remédier, mon cher frère, on peut y remédier à partir du moment où on pose le diagnostic. Donc il y a plusieurs remédiations possibles, hein, mais il va falloir, la psychomotricienne peut le prendre en charge aussi.
Alors, Azine, vous n'avez pas diagnostiqué ce déficit de l'attention? Vous l'avez pas fait diagnostiquer aujourd'hui?
Non.
Alors, pour tout le monde.
Oui.
Quand vous dites faire un diagnostic, c'est pas, il faut aller voir quelqu'un pour ça.
Alors, il y a des spécialistes, des pédopsychiatres notamment, qui peuvent poser le diagnostic ou pas à travers toute une échelle et des questionnaires, savoir vraiment comment. Mais seul un médecin pédopsychiatre est habilité à le faire, mais également des neuropsychologues pour pouvoir faire des tests attentionnels pour savoir où en est son attention.
Alors,
n'importe quel neuropsychologue.
Linda, pour tout le monde, quels sont les spécialistes qui peuvent poser le diagnostic?
Neuropsychologue en faisant juste des tests. Qu'elle est là juste pour pouvoir évaluer un petit peu, intenter ce qui se passe dans le cerveau, mais surtout un pédopsychiatre. Et c'est pas du tout la psychologue du CMP qui va pouvoir, effectivement, en même temps, il y a des psychiatres. Il y a toujours un docteur psychiatre dans les CMP. Donc peut-être lui demander, effectivement, de pousser un petit peu, au-delà de l'électroencéphalogramme, de pousser un petit peu la recherche. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai TDA et comment y remédier derrière? Donc vous êtes bien pris en charge dans le CMP. Posez juste la bonne question et allez voir la bonne personne. Ou sinon, à l'extérieur, moi je vous encourage parce que c'est toujours très long en CMP, allez carrément à l'extérieur voir un pédopsychiatre qui est spécialiste dans votre ville du TDA. C'est important de poser. Pour pouvoir y remédier très vite, il faut le diagnostic.
Voilà, Azdine, ce qu'on pouvait vous dire ce matin. Merci pour votre question. On va à Toulon. Toulon, on a Nassim avec nous. Nassim, bonjour et bienvenue sur Beurre FM. Nassim.
Voilà, en fait, mes questions, c'est pour expliquer ma situation, parce qu'en fait, je reconnais un peu beaucoup de gens dans ma situation, et donc j'ai une fille de 7 ans, donc moi, c'était très très compliqué la maternelle, première année, deuxième année, troisième année, beaucoup de soucis à l'école, le comportement, elle était meneuse, donc très très disciplinée, donc...
Une leader, quoi.
Voilà, c'est ça. Et je me suis renseigné et tout ça. Donc, j'ai décidé de lui faire une activité, une activité à l'extérieur de l'école. Elle a commencé le cirque. Et depuis la rentrée du CP, elle s'est beaucoup apaisée.
C'est génial.
Est-ce que cette activité, on fait en sorte que ça s'est apaisé ou...
Oui, je pense.
Quand même,
D'abord, bonjour.
Quand même la faire suivre ou...
Non, je pense que c'est un vrai exutoire pour elle et que ces enfants-là qui bougent dans tous les sens ou qui ont un problème d'attention ont besoin effectivement de pouvoir bouger le plus possible, de pouvoir exprimer à travers leur corps ce qu'elles peuvent parfois ne pas exprimer à travers la bouche. Et donc le cirque comme le théâtre par exemple, c'est un réel exutoire pour ces enfants-là. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Et tant que ça lui va, on continue, sans aucun souci.
D'accord.
Maintenant, 7 ans, c'est charnière. C'est-à-dire que c'est vraiment, comme je vous dis, c'est l'âge de raison qui vient de s'installer juste à l'âge de 7 ans. Donc il va falloir vraiment attendre 8 ans à peu près peut-être pour savoir effectivement si son comportement régresse, si ça va mieux, si elle continue à être dans l'hyperactivité, je pense que là, continuer à lui faire c'est une très bonne chose le cirque, puis surtout que c'est en train de l'apaiser, et voyez au niveau scolaire, purement scolaire et cognitif, dès l'année prochaine par exemple, dès 8 ans, une fois que tout a été installé. Donc c'est vrai qu'entre 5 ans et 7 ans, c'est difficile.
De plus, c'est que à l'école, elle a un comportement comme ça, mais à la maison, elle fait rien de plus que tout ce qu'on me dit à l'école, quoi.
C'est-à-dire?
Parce qu'il se dit qu'elle a tapé deux, trois petits gosses, mais je passe à la maternelle pour CP. Hein.
Ouais.
Et moi, quand je suis avec elle, elle n'a jamais levé la main.
D'accord.
Que ce soit à des enfants.
D'accord, mais peut-être parce
son qu'elle... comportement est complètement différent.
Ben oui, parce donc, que peut-être qu'elle veut imposer son leadership, justement, sa façon d'être au niveau de l'école, et qu'elle le fait maladroitement. Et c'est à vous, en tant que parent, de lui donner les limites, lui dire voilà ce qui est possible de faire, pas possible de faire. Allahumma barik, mashallah, tu as voilà une aura, tu sais, parce qu'elle elle le vit aussi à la maison.
Tu verras quand tu seras ministre plus tard.
Mais ce qui voilà. Mais ce qui est important, c'est voilà jusqu'où tu peux aller, jusqu'où tu ne peux pas aller. C'est vraiment de la remédiation cognitive, de la psychoéducation, où vous allez l'aider vraiment à mettre des limites à l'école. Puisqu'elle,
mais c'est intéressant, ça, les enfants qui très tôt veulent imposer, comme vous le disiez, leur leadership, qui sont les leaders. C'est comme les adultes.
Les futurs
leaders. Il y a des enfants qui sont des leaders.
Sauf qu'ils n'ont pas les règles, ils n'ont pas les codes sociaux qui font que ben non, je ne peux pas aller jusque-là. Et donc, c'est à nous, parents, de dire c'est très bien, machin, là. Et déjà, vraiment valoriser ça. Le fait qu'elle soit bien déjà au cirque, mais aussi qu'elle arrive à s'imposer, parce que pour moi, encore une fois, je le redis, hein, le terreau de la réussite, c'est l'estime de soi. Donc ça veut dire qu'elle va avoir, inch'Allah, une très belle estime de soi. Donc surtout, ne négligez
pas
ça, absolument pas. Mais surtout, lui dire, ok, c'est très bien, vraiment bravo, et j'aime ta persévérance, j'aime. Sauf qu'il y a des choses à ne pas faire. Et ça, c'est important de lui dire calmement, posément, sans cri, que, voilà, pour pas qu'elle dépasse certaines limites qu'elle n'a pas pour le moment, puisqu'elle accepte.
D'accord. Parce qu'en plus, elle travaille bien à l'école, c'est ça le pire, quoi.
C'est une très belle chose. Donc, une enfant intelligente qui s'impose, mais qui ne sait pas trop pour l'instant comment s'imposer, parce qu'à cause des codes qu'elle n'a pas encore intégrés, c'est normal, elle n'a que 7 ans. Donc, c'est à vous de lui intégrer les codes, tout doucement, tranquillement, et ça va le faire. Ne vous inquiétez pas. Je pense qu'aussi, ne pas trop s'inquiéter. C'est-à-dire qu'elle a les ressources, en tous les cas, votre enfant, comme vous le décrivez, pour pouvoir rebondir, pour pouvoir aller bien et s'intégrer. Donc, juste la guider, en fait, on va dire. Pas la changer, mais la guider. Bon courage.
Alors, on a perdu Nassim qui était à Toulon. J'aimerais savoir, une fois qu'on a posé donc le diagnostic de trouble, Linda, comment est-ce qu'on le prend en charge? Comment ça se soigne?
Alors, en fait, comment ça soigne de façon différente. D'abord, il y a la rééducation. Donc, à savoir déjà par les spécialistes, qu'est-ce qui va être pris en charge? Est-ce que c'est l'orthophoniste parce qu'il y a un trouble au niveau du langage oral ou écrit? Est-ce que c'est la psychomotricienne? Comment est-ce que j'habite mon corps? Est-ce que c'est la neuropsy qui va aussi faire une remédiation cognitive parce qu'on a détecté un trouble de l'inhibition ou de l'impulsivité ou trouble au niveau de l'attention? Mais il y a aussi une psychothérapie, des psychothérapies avec l'enfant où on va pouvoir aussi lui apprendre à gérer son stress, à gérer ses émotions, à pouvoir se poser quand elle déconnecte avec la réalité. Il y a aussi la psychoéducation des parents. De plus en plus maintenant se développe ce qu'on appelle les ateliers d'habilité parentale. On en trouve sur internet, on en trouve partout, et je pense que c'est une très bonne chose pour pouvoir mettre des mots dessus. Et enfin, et les aménagements scolaires en classe aussi sont très importants, aménagements pédagogiques, mais surtout, effectivement, et ça je pense qu'il faut laisser ça en dernière intention. Une fois qu'on a passé tout ça, d'accord, et qu'on voit, ça c'est vraiment la première intention, c'est-à-dire on commence par tout ce qui est psychoéducatif. Si ça ne marche pas, à ce moment-là seulement, passer à ce qu'on appelle un traitement de dernière intention, il faut vraiment laisser en dernière intention à mon sens, qui est le méthylphénidate, qui est bien entendu... le méthylphénidate, qu'on peut appeler Quazam ou Concerta ou Ritaline, tout simplement.
Qui était très connu sous le...
C'est ça. Alors,
Ritaline.
Jusqu'à présent, effectivement, moi, pour tout vous dire, au début de ma carrière, j'étais con. Je me dis, mais comment est-ce qu'on peut donner les médicaments à
l'enfant,
etc. On
a dit que c'était dangereux à une époque.
C'est dangereux parce que c'est un dérivé d'amphétamine, en fait. Donc, alors, et je me suis toujours posé la question, mais comment donner à un enfant à partir de 6 ans de les amphétamines, etc. Quels sont les risques, effectivement, d'addiction, éventuellement? C'est ce que vraiment je me posais comme question plus tard. Et beaucoup d'études scientifiques nous ont prouvé aujourd'hui que, bien au contraire, un enfant qui sait, qui a appris par des stratégies de compensation, mais aussi par la médication et cette molécule-là, à gérer son attention, à gérer son impulsivité, à gérer son stress, sont des enfants qui vont beaucoup moins avoir recours plus tard aux drogues, c'est ce qu'il faut dire, surtout les garçons, aux drogues illicites, pour pouvoir calmer ça. Un adolescent qui tombe dans la drogue, c'est beaucoup d'entre eux, c'est parce qu'ils ont été, ils n'ont pas été diagnostiqués, et on n'a pas mis en place ce fameux médicament éventuellement pour pouvoir...
Donc, Ida, vous êtes revenu donc sur ce que vous pensiez de la Ritaline, et donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de risque d'accoutumance, pas de...
Je ne pense pas, au contraire, en dernière intention, bien entendu, on a d'abord essayé plein de choses, mais ça marche énormément, ça marche. Et j'ai moi-même des adolescents qui viennent me voir, me dire, mais madame, ça a changé ma vie, j'ai réussi à avoir mon bac, j'ai réussi, surtout des jeunes adolescents, là où ils ne pouvaient absolument pas se concentrer sur aucune des consignes, aujourd'hui ils revivent. Et ça, il faut le prendre en compte, je pense.
Linda Benjaffer sur Beurre FM. Vous retrouvez l'émission sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Écoutez les podcasts également beurrefm.net. À très bientôt, Linda.
À très bientôt, je l'espère. Merci à vous.
Et demain, nous parlons des troubles borderline. Ah. Tiens, voilà, on va en parler demain. J'en connais un en face de nous qui s'est reconnu. Et on se retrouve tout à l'heure pour les petites annonces de Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.